La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous au deuxième jour de notre série consacrée à Simone de Beauvoir. Une série que l'on doit à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurent Travaglichanal et Laurence Genepin, réalisée par Clément Nouguier avec à la console Jean-Guilain Meige. C'est le besoin de liberté qui semble avoir guidé toute la vie de Beauvoir. Liberté dans l'amour, liberté dans la pensée, liberté par rapport à sa famille aussi, dont Daniel Salnave nous a raconté hier qu'elle avait représenté pour elle un contre-modèle, avec ce père qui ne cachait pas les photos de ses maîtresses et cette mère qu'elle jugeait soumise et dépendante. Cette émission d'hier est comme toutes les autres disponible en podcast. On dit souvent de Beauvoir qu'elle est d'abord une philosophe ou une mémorialiste, mais il ne faut pas oublier la romancière qu'elle a été, elle qui plaçait la littérature si haut pendant sa jeunesse. Nous parlerons donc de ses romans demain avec Delphine Nicolas-Pierre qui a consacré sa thèse à ce sujet. Enfin jeudi, n'oublions pas le féminisme, car c'est peut-être la part la plus moderne de son œuvre et la plus actuelle. Geneviève Fraisse nous en parlera donc jeudi avec Sylvie Chaperon qui sera elle en seconde partie. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour évoquer les mémoires de Simone de Beauvoir, nous sommes avec Jean-Louis Janel, professeur de littérature à l'université de Rouen, auteur de plusieurs livres sur André Malraux, paru chez Gallimard. Gallimard, où vient de paraître en deux volumes de Pléiade les mémoires de Simone de Beauvoir, qu'il a dirigé avec Eliane Lecarme-Tabonne. Deux tomes qui comprennent les mémoires d'une jeune fille rangée, La force de l'âge, La force des choses, Tout compte fait et La cérémonie des adieux. Et comme Sartre est évidemment présent en tant que quasi-personnage de ses récits, eh bien c'est par une conversation entre lui et elle que nous entamons cette émission.
Vous avez écrit à quel âge ?
Oh, ben c'était un peu comme vous. Quand j'étais toute petite, que j'avais 7-8 ans, ça m'amusait, j'aimais énormément lire. Et alors, ça m'amusait d'imiter les livres que je lisais. Et par exemple, j'avais écrit une certaine famille Cornichon qui imitait la famille Fenouillard et que d'ailleurs, très gentiment, mes parents avaient fait relier dans un véritable livre. Une tante avait tout recopié et c'était sur des pages blanches dans un livre. Puis j'avais écrit Les Malheurs de Marguerite, qui était un drame inspiré par la guerre. Et puis j'avais écrit, enfin, beaucoup de sottises. Je me suis arrêtée d'ailleurs vers 10-11 ans et je n'ai recommencé alors à écrire d'une manière que je voulais plus sérieuse, mais qui était assez lamentable, vers 20 ans.
Mais quand vous avez écrit vos premières œuvres, là, la famille Cornichon, vous aviez envie d'écrire plus tard ? C'était des... essais ?
Pour l'instant, c'était plutôt comme un jeu, simplement, de faire moi-même des livres, comme je jouais à la marchande, je jouais à écrire. Mais j'ai commencé à vouloir vraiment écrire, je sais, alors que là, c'était très décidé vers 15 ans, puisque sur un carnet, comme en ont les jeunes filles, et on me demandait quelles étaient mes préférences, mes fleurs favorites, etc. Qu'est-ce que je voulais être plus tard ? Et j'avais écrit, là, sans hésiter du tout, un écrivain célèbre.
Alors, c'est une archive amusante. Jean-Louis Janel, bonjour.
Bonjour.
Avec ce Sartre qui fait semblant de ne pas savoir comment Beauvoir a commencé à écrire, alors que vraisemblablement, ils en avaient déjà parlé des tas de fois ensemble, puisque c'était un couple qui parlait beaucoup. Et c'est justement au cours d'une conversation entre eux que cette aventure des écrits autobiographiques de Beauvoir a commencé. Jean-Louis Janel, racontez-nous cela.
Oui, dans le doute. Alors, c'est peut-être la voix de Lanzmann. Je ne suis pas tout à fait sûr. Il faudra qu'on vérifie. Mais dans Lanzmann, qui ne connaissait pas forcément, si c'est bien lui, lorsqu'il l'interrogeait, les débuts de Simone de Beauvoir. C'est quelque chose d'un peu étonnant parce qu'on a l'habitude, on le sait exactement pour Sartre, puisqu'on connaît tout ce qu'il a pu en dire dans les mots. On le savait un peu moins, même si elle l'a raconté dans les Mémoires de jeune fille rangée, dans le cas de Beauvoir. Ce qui est intéressant, c'est que leurs textes sont très proches par beaucoup de côtés. mais que la façon dont il le raconte est diamétralement opposée. Sartre n'a qu'ironie, moquerie, et d'ailleurs de façon très drôle, à l'égard des premiers essais qui étaient les siens, voit dans son goût de l'écriture et dans le fantasme qu'il avait et qui lui avait été transmis par sa famille ou son milieu social bourgeois, du grand écrivain, une espèce de névrose dont il a fallu se défaire petit à petit et qui est la ligne directrice, cette tentative de se défaire de cette névrose. Chez Beauvoir, au contraire, l'écriture est une sorte de vocation qui l'a conduit, parce que leur parcours est tout à fait dissemblable de ce point de vue, à une forme de libération. Sartre se voit en quelque sorte englué dans le mythe de l'écrivain et de le mythe du grand écrivain tel qu'il lui a été transmis par son milieu, alors qu'au contraire, Beauvoir voit dans l'écriture, dans la culture, une forme de libération à l'égard de destin qui aurait dû être le sien, notamment une jeune fille rangée, une femme mariée, pour laquelle la vocation littéraire n'était pas à prendre en compte.
Alors c'est tout de même au cours d'une conversation entre Sartre et Beauvoir, oui, qui se passe un soir, ils sont, oui, attablés au dôme, et ils discutent, ils ruminent, oui, ensemble, oui, et Sartre lui dit « Castor, vous devriez écrire à la première personne. Pourquoi ?»
Elle cherche un sujet de roman n'a pas beaucoup vraiment d'idées. Et Sartre lui dit, mais auparavant, vous aviez plein de petites idées, etc. Vous devriez vous libérer de toutes ces tentatives de fictionnalisation qui sont les vôtres, puisque Beauvoir, depuis très longtemps, a essayé, Sylvie Le Bon de Beauvoir en a fait la recension, plusieurs tentatives de transcription de son expérience, ses premiers textes dont on peut connaître notamment ce qui est paru sous le titre « Quand prime le spirituel », enfin le premier titre devait être « Quand prime le spirituel
». Qui sera publié
ensuite
dans les années 70.
Tout à fait, assez tardivement. Beauvoir essayait une sorte de transposition à la fois de son destin et de celui de Zaza. Elle cherchait une fictionalisation.
Zaza qui était sa grande amie morte très jeune.
Dont le destin était très proche au départ et qui a connu une fin tragique, puisque Zaza n'a pas réussi à se défaire des tentatives de l'embrigadement qui était celui de sa famille très catholique, très bourgeoise, qui l'a destinée à un mariage arrangé, alors qu'elle était tombée amoureuse de Merleau-Ponty, qui s'appelle Pradel dans Les Mémoires de jeune fille rangée, et qui est morte, alors aux yeux de Beauvoir, en raison de cette pression exercée par sa famille qui refusait ce mariage, ou qui tout du moins pendant longtemps l'a refusé, à la toute fin admis. Beauvoir au contraire a réussi à se libérer de ce, et elle n'est pas parvenue à aider son amie à avoir le même chemin qu'elle et à choisir la voie de l'accomplissement intellectuel et littéraire. Donc effectivement, il y a bien de ce point de vue une sorte de parcours croisé, et dans Sartre est celui qui, en tout cas dans les premiers temps, convainc Beauvoir d'avoir confiance en ses capacités, d'oser en quelque sorte se dire elle-même. Elle ne le fera pas immédiatement, en tout cas ça la marque, cette conversation dont vous parliez au Dôme, ça la marque, elle ne le fera pas immédiatement, elle va passer tout d'abord par l'essai sur la condition des femmes, avant d'arriver réellement, mais c'est son vœu depuis très longtemps, à la première personne du singulier. Il faut que les choses se décantent pour qu'elle puisse oser arriver à la première personne.
Ça la marque aussi parce que Sartre dit cela avec une certaine véhémence.
Oui, 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 il la provoque et d'une certaine manière, il la provoque parce que l'une des grandes angoisses, Beauvoir le raconte très bien, c'est de ne pas être une femme soumise à celui qu'elle aime. C'est une sorte de mythe qu'elle a déconstruit assez tôt, mais qui la travaille d'une certaine manière. Elle a pu, à certains moments de sa vie, elle le dit au début des années 20, au début de son, des années 30, pardon, au tout début de son couple avec Sartre, au début des années 30, elle a cette forme de, elle se laisse aller d'une certaine manière, elle a des projets de romans, mais auxquels elle travaille plus ou moins selon les moments. Et puis, tout d'un coup, elle se laisse porter en quelque sorte par ce couple qui est le sien, le bonheur, les projets qui sont ceux de Sartre et qu'elle suit. Et d'une certaine manière, elle se voit elle-même comme une sorte de victime d'une sorte de couple qui réussit trop bien et où elle joue le rôle de la seconde, d'une certaine manière. Donc, il lui faudra un moment. Et Sartre, soucieux d'égalité, de ce point de vue, et on ne peut pas le lui reprocher, évidemment, est celui qui la pousse au début à vouloir s'accomplir elle-même.
Mais il n'en reste pas moins que c'est une jeune fille rangée,
elle est
de la bourgeoisie, Et quand on est une jeune fille rangée, ça n'est pas facile de se raconter quelle est l'importance de la pudeur pour Simone de Beauvoir à ce moment-là et peut-être même après.
Ouais, ouais. C'est une question très intéressante. Lorsque l'on regarde, je vous donne un tout petit exemple. Beauvoir a pensé, lorsqu'elle écrivait l'invité, commencer par une sorte de deux petits chapitres qui seraient des chapitres un peu biographiques.
L'invité, roman donc, sur roman sa relation à trois, absolument, avec Sartre et Olga.
Sur le trio où elle transpose en fiction ce trio avec Olga et Sartre. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'elle imagine accorder au personnage qui serait son double à elle, Françoise, une sorte de passé où elle projette toutes ses émotions, tous ses souvenirs d'enfance qu'on retrouvera plus tard, en 58, dans Les mains de jeune fille rangée. Or, elle y est très précise sur les questions sexuelles. Elle évoque la question de la masturbation, des choses très personnelles, qui jouent un grand rôle dans l'évolution de la petite fille. Choses qui n'apparaîtront à aucun moment, même si elle est d'une très grande franchise, dans Les mains de jeune fille rangée. Donc, la question de la sexualité est en quelque sorte traitée d'une manière très distante dans Les mains de jeune fille rangée, avec beaucoup de pudeur, même si elle parle de la question des règles, des besoins et même des troubles qui peuvent agiter une jeune fille qui n'a aucune connaissance de ce que peut être la sexualité, rien, aucune représentation, aucun discours qui lui serait donné. Elle est donc assez précise et pourtant, elle ne va pas jusqu'à évoquer, par exemple, la question de la masturbation qu'elle avait osé traiter, ces deux chapitres ayant été refusés par l'éditeur et rejetés. On peut y accéder assez facilement aujourd'hui, mais ils ne sont pas connus, en tout cas par le biais de l'invité.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons des récits autobiographiques de Simone de Beauvoir avec vous, Jean-Louis Janel. Alors, pour parler d'elle, évidemment, il faut élargir la problématique quand on est Simone de Beauvoir à un autre sujet. On ne peut pas seulement parler de soi. Et il y a cette chose assez belle et assez étonnante qui est qu'elle va décider que pour parler d'elle, il faut qu'elle parle des femmes en général. C'est ça, Jean-Louis Janel?
Oui, il faut en passer par la question de savoir. Beauvoir a toujours grandi en ayant l'impression qu'elle était d'une certaine manière l'égale des hommes, qu'elle n'avait pas souffert de sa condition féminine, même si elle a pu en souffrir sur certains points. Mais en tout cas, sur la question des possibilités dans les études, des capacités intellectuelles, même d'une certaine manière, cette illusion qu'elle pouvait avoir de la liberté qui lui était laissée, Beauvoir se sentait à peu près l'égale et en tout cas pas rabaissée par les hommes qui l'entouraient. Et Sartre lui a toujours donné cette impression d'égalité. Il a donc fallu revenir. De plus, elle était complètement coupée de toutes les traditions féministes ou de tous les combats qui avaient pu être ceux de son temps. Elle n'avait aucun intérêt pour ces questions et même se montre dans Le deuxième sexe assez méprisante à l'égard des combats qui ont pu être ceux des femmes qui l'ont précédée, sur le plan intellectuel comme sur le plan strictement
politique. Pour quelle raison, en deux mots ?
Pour des raisons qui sont assez compliquées, elle y voit une forme d'aliénation, une forme de les femmes ou les grandes créatrices qui se sont illustrées par le passé, par exemple pour les femmes écrivaines, les écrivaines, ça peut être Woolf ou d'autres, qu'elle admire pourtant beaucoup par ailleurs, ou Colette, ne lui semble aller jamais aussi loin que les hommes. Elle ne s'approprie pas le monde avec le même engagement. Elle ne s'engage pas dans une forme de transcendance à l'égal des hommes. Il lui semble qu'elles sont toujours victimes d'une forme d'immanence, une manière de rester dans un petit monde qui serait leur. Et même pour elle, c'est ça qui est assez paradoxal, les femmes sont en général conduites à se vouer à l'autobiographie. Elle voit dans l'autobiographie et les mémoires une forme d'ouvrage de femmes qui lui semble finalement aussi peu intéressant si on les compare avec les grands textes de Stendhal ou de Rousseau.
Donc on n'est pas dans une démarche autobiographique qui serait entre guillemets féminine.
Non, il s'agit bien du complément de ce qu'elle a fait dans Le deuxième sexe, c'est-à-dire une façon de déconstruire pas sur le mode de l'ironie, même s'il y a beaucoup d'humour et une forme d'ironie chez Beauvoir, mais qui n'a jamais la forme très virulente et très acide qu'elle peut avoir chez Sartre, de déconstruire une éducation qui a été partagée par beaucoup de femmes de sa génération, en tout cas de son milieu. Il y a eu, on le voit dans les lettres qui sont envoyées par les lectrices juste après la publication des Mémoires de jeune fille rangée, l'effet produit sur l'électorat est énorme. Alors, un certain lectorat, mais assez large tout de même. Beauvoir, d'ailleurs, il y a eu une forme de méprise, pas d'une certaine manière, ou malentendu en tout cas, parce qu'elle est assez irritée par le plaisir que beaucoup de lectrices y ont pris à retrouver leur jeunesse, alors qu'au contraire, à ses yeux, il s'agit de dénoncer une forme d'aliénation. Le but de Beauvoir, c'est de dénoncer le spiritualisme qui a été celui, et l'illusion que ça comporte, de tout le milieu catholique dans lequel elle est née et a grandi, cette façon, en quelque sorte, de fixer un destin aux jeunes filles en les enfermant dans une conception vouée à la reproduction familiale et à une sorte de compensation par la spiritualité des frustrations qui sont les leurs sur un plan psychologique et social.
Donc on voit bien, Jean-Louis Janel, qu'elle a un point de vue très à elle de ce que doit être une autobiographie. Oui. C'est aussi très à elle parce que, pour des raisons qui lui sont peut-être personnelles, elle n'a peut-être pas réussi exactement à faire ce qu'elle voulait dans le domaine de la fiction. Vous avez dit d'ailleurs que la fiction était en grande partie autobiographique, au tout début en tous les cas. Ouais. Et puis, il y a évidemment la philosophie et qui lui plaît, qu'elle met au-dessus de tout, puisqu'à partir d'un certain moment, pour elle, la philosophie est plus importante que la littérature. Et donc, est-ce que ce n'est pas finalement ce genre des mémoires, de l'autobiographie, une manière de réunir un petit peu toutes ces contradictions, toutes ces envies, pour faire quelque chose dans un genre où elle peut tout mettre, finalement, Jean-Louis
Janel? Oui, c'est vrai, mais je serais prudent sur la question du roman. Je ne dirais pas que les romans sont autobiographiques, c'est une illusion un peu rétrospective. Nous savons tout aujourd'hui de la vie de Beauvoir, et donc nous lisons l'invité à travers le prisme de ce que nous en connaissons dans La force de l'âge, notamment, où nous sont racontées les aventures du couple, à travers bien sûr les lettres, les journaux, etc. Mais c'est une illusion rétrospective. Au moment où ça a été publié, ça ne l'était pas. Et les lecteurs découvraient une histoire, c'était la question des mœurs. C'est là où le texte faisait scandale, apportait quelque chose. C'était un roman de mœurs. On le lisait tel quel, on ne le lisait pas comme un roman à clé. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des Mandarins, où la question de la relation, roman publié en 1954 pour lequel il obtient le prix Goncourt, où la relation entre les deux héros masculins a été vue comme une transposition des rapports entre Sartre et Camus et de leur querelle, leur fameuse querelle de 52. Alors, roman à clé ne voulant pas dire là non plus forcément roman autobiographique. Il y a une façon de transposer tout un savoir biographique, médiatique, on va dire, dans le roman, qui est une sorte de clé de lecture, mais qui ne veut pas dire forcément que le texte se réduit à une... On n'est pas dans l'équivalent de René de Chateaubriand ou des choses comme ça. Donc Beauvoir, de ce point de vue, ne détache très nettement trois pans de son œuvre. Roman, mémoire et essai, ou philosophie, qui ne fonctionne pas du tout de la même manière à ses yeux et a besoin de passer continuellement de l'un à l'autre.
Mais dans les mémoires, il y a un petit peu à la fois un genre qui ressemble à de la fiction et un genre qui ressemble à de la philosophie et un genre qui ressemble à des essais. Enfin, quand je dis de la fiction, c'est simplement dans le style narratif, par exemple.
Oui, alors je distinguerai nettement tout ça. On peut les croiser. Ça, elle en est tout à fait consciente. C'est-à-dire qu'on peut relire la fiction ou les essais à travers les mémoires. En revanche, à mes yeux, il n'y a pas du tout, et Beauvoir doit être, peut-être avec Léris, l'un des auteurs au XXe siècle pour lequel les mémoires et l'autobiographie et les mémoires, ce qui suit, sont les plus lucides, les plus authentiques, les plus... Même si, mais elle ne s'en cache pas de ce point de vue, on ne peut pas lui reprocher, elle laisse certains pans de sa vie, notamment intime, de côté. Il y a une grande rigueur, il y a une grande authenticité dans le texte, et elle est très proche de ce point de vue de Léris, qu'elle admirait énormément, ce que Sartre appelait les essais martyrs de Léris dans L'âge d'homme. Quand elle passe aux mémoires, c'est tout à fait autre chose, mais même si... Alors effectivement, il y a bien la possibilité de lire ces textes en les croisant avec soit la philo, soit la fiction. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait contamination de l'un avec l'autre. Et c'est ça qui me semble assez intéressant dans le cas de Beauvoir. C'est cette espèce de dissociation qui, à mon avis, est plus grande que dans le cas de Sartre.
On continuera peut-être sur ce sujet-là, mais je voudrais qu'on en profite quand même pour écouter, on ne l'a pas encore fait dans cette émission, à 15h19, écoutez le début de cette première pierre à l'édifice autobiographique, Les mémoires d'une jeune fille rangée, la première page de ce texte lu par Anne Alvaro.
Je suis née à 4h du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de plomb qui donnait sur le boulevard Raspail. Enfant, je restais assise l'après-midi sur le balcon de la salle à manger, à la hauteur des feuillages qui ombrageaient le boulevard Raspail. Et je suivais des yeux les passants. Je connaissais trop peu les mœurs des adultes pour essayer de deviner vers quel rendez-vous ils se hâtaient. Mais leur visage, leur silhouette, le bruit de leur voix me captivaient. À vrai dire, je m'expliquais assez mal aujourd'hui ce bonheur qu'ils me donnaient. Mais quand mes parents décidèrent de s'installer dans un 5e, rue de Rennes, je me rappelle mon désespoir. Les gens qui se promènent dans la rue, je ne les verrai plus. Déjà, il m'arrivait de vouloir transgresser le cercle où j'étais confinée. Une démarche, un geste, un sourire me touchaient. J'aurais voulu courir après l'inconnu qui tournait le coin de la rue et que je ne croiserais plus jamais. Au Luxembourg, un après-midi, une grande jeune fille en tailleur vert pomme faisait sauter des enfants à la corde. Elle avait des joues roses, un rire étincelant et tendre. Le soir, je déclarais à ma sœur, « Je sais ce que c'est que l'amour. » J'avais en effet entrevu quelque chose de neuf. Mon père, ma mère, ma sœur, ceux que j'aimais, étaient miens. Je ressentais pour la première fois qu'on peut se trouver atteint au cœur de soi-même par un rayonnement venu d'ailleurs.
Que retenez-vous de cet extrait, Jean-Louis Janel ?
Moi, j'aime beaucoup ce petit texte parce qu'il y a le blanc des murs au début. Mmh. On commence sur ces pages blanches, voilà, de vide. On est exactement à l'inverse du début des mots de Sartre où tout commence par cette espèce de mouvement comme ça, cette façon de lancer les choses de façon très rapide avec une ironie très mordante où toute l'histoire de famille est posée et où chacun est traîné dans le ridicule. Au contraire, il y a une sorte d'apaisement ici, quelque chose d'assez beau où l'enfant, et c'est ça qui me semble intéressant, alors par ailleurs, elle démarque en grande partie le début de Si le grain ne meurt de Gide, qui commence à peu près de la même manière sur une date, la description de l'espace qui est vu par l'enfant. Dans
vous expliquez
temps.
Bien d'ailleurs que Gide fait partie des références oui. importantes pour les récits autobiographiques
oui,
de Simone de Beauvoir. Avec Barrès, Bergson,
tout
Jacques
à fait. Elle, il a beaucoup compté pour elle. Et c'est des choses qu'elle a refoulées après, puisque à l'époque, après la guerre, il n'était plus très à la mode de faire référence forcément à Gide ou à Barrès, encore moins évidemment. Mais en tout cas, on sent l'influence. Ce qui moi me semble très beau, c'est la façon dont pour une petite fille qui était confinée dans un milieu qui était, en tout cas, pas dans ses débuts où ses parents étaient assez heureux et assez fortunés, mais qui ensuite est devenue très étouffant très rapidement, les premières sensations, les premières notations, c'est cette jeune fille qu'elle voit sauter qui lui évoque tout de suite l'image de l'amour. C'est un corps, un corps en mouvement, un corps libre qui immédiatement lui donne la sensation de savoir, de découvrir ce qu'elle appelle un rayonnement venu d'ailleurs, l'idée même de l'amour, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il y a une espèce, et ça c'est vraiment Beauvoir pour le coup, c'est cette dialectique entre le dedans et le dehors, il y a une espèce de capacité à saisir immédiatement, à adhérer à une image qui est celle d'une forme de liberté et de jouissance, de bonheur physique, qui est vraiment spécifique à Beauvoir. Chez Sartre, la liberté va être avant tout d'ordre intellectuel, c'est la possibilité de se projeter, de se réinventer. C'est une forme de transcendance continuellement réactualisée. Chez Beauvoir, la liberté, c'est avant tout le mouvement. C'est un mouvement très physique, très ancré dans le corps. C'est une forme de jouissance physique que l'on ressent à chaque fois qu'on lit ces textes, hein, qui passe par un mouvement corporel.
Alors, où va-t-elle trouver le matériau de ses premiers récits autobiographiques ? Est-ce dans ses carnets, dans ses journaux intimes ? Est-ce tout simplement dans ses souvenirs ?
Alors, ce sont dans ces journaux qui sont peut-être ce qui, moi en tout cas, me touche le plus aujourd'hui, ces fameux cahiers de jeunesse qui ont été publiés en 2008 par Sylvie Le Bon de Beauvoir, qui est un texte extraordinaire, qui sont écrits entre 1926 et 1930. On est entre 18 ans et 21 ans à peu près. Beauvoir est dans les dernières années de son lycée et elle va passer l'agrégation. Donc c'est vraiment le tournant pour elle. C'est le moment où elle va se défaire de l'emprise de son milieu, trouver en quelque sorte une pensée qui lui est propre et qu'elle va ensuite créer, constituer, élaborer avec l'aide de Sartre et rencontrer le milieu des petits camarades, entrer dans le milieu des petits camarades. Elle va mettre un petit moment à faire de Sartre l'élu. Elle va hésiter entre plusieurs des petits camarades en question et il y a là quelque chose qu'elle efface un tout petit peu, qu'elle minore en tout cas cas dans la reconstitution qu'elle livre dans Les Mémoires d'une fille rangée. Mais c'est donc un moment absolument essentiel dans son existence et où Beauvoir apparaît avec une espèce de maîtrise d'elle-même, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle est. Il y a un moment en octobre 1926 où elle écrit comme ça « Je m'émerveille souvent d'être une forme de vie unique dans le monde ». Et elle reprend une citation de Rivière qu'elle a lue dans un texte qui s'intitule « Aimer ». Jacques Rivière, qui dirigeait la NRF, et Jacques Rivière disait « Tout ce qui me touche est important ». Et c'est une phrase dont elle fait une espèce de maxime.
Il faut elle dit aussi « Oh, j'aurai un beau destin, j'ai déjà tant agi, tant appris, tant brûlé pendant ces 4 années ».
Ça, cette phrase, cette idée qu'elle aura un beau destin, c'est quelque chose qu'elle répète très souvent à plusieurs moments dans ses cahiers de jeunesse, effectivement. Elle a la certitude d'avoir une vie qui, plus tard, sera une vie réussie ou d'être en possession d'une sorte de... Elle dit d'ailleurs à un moment, ce qui est assez extraordinaire, on est en 1929, donc on est à la toute fin. Elle a rencontré déjà Sartre et où elle imagine toute une série, elle est chez le coiffeur et l'espèce de moment d'attente comme ça, de latence, elle est en train de projeter la vie qui l'attend l'an prochain. Elle sera enfin installée chez elle. Elle aura quitté le domicile des parents. Et elle imagine, elle se dit à elle-même, ou elle écrit en tout cas, quelle plus belle œuvre que cette destinée que j'accomplis. Cette idée que sa destinée à elle-même soit son œuvre, devienne l'œuvre qu'elle va accomplir et qu'il y ait une sorte de fusion comme ça, et dès le départ chez Beauvoir, entre l'existence et l'écriture, c'est vraiment quelque chose d'assez unique.
D'où l'importance des écrits autobiographiques, puisque c'est la fusion entre justement l'œuvre qu'est sa vie et l'œuvre qu'elle écrit tout simplement. À quel point peut-on, selon vous, Jean-Louis Janel, lui faire confiance quand elle raconte, par exemple, son couple avec Sartre ? Est-ce qu'elle maquille beaucoup ?
Alors, c'est vraiment la question délicate, parce que c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché. Vous savez que la publication des lettres, des carnets, des cahiers, etc., notamment des lettres à Sartre ou des lettres de Sartre à Beauvoir ou Castor, ont été l'occasion de beaucoup de récriminations, de beaucoup de critiques à l'égard de Beauvoir, qui serait censé avoir maquillé, transposé, menti sur
enjolivé,
plusieurs choses.
Bon, c'est toujours ce qu'on fait quand on écrit
évidemment,
sa biographie.
Notamment, elle aurait menti sur ses amours lesbiennes, elle aurait menti sur ses relations en partie avec Sartre, elle aurait caché plusieurs des histoires d'amour, etc. C'est un faux procès, me semble-t-il, et c'est le signe qu'on ne sait pas toujours très bien lire les textes autobiographiques. Il y a une sorte de règle de lecture. Il me semble qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des textes qui ont été publiés rétrospectivement, voulus par l'auteur, etc., et des textes qu'un auteur a laissé publier, dont il sait qu'ils seront publiés, qu'il n'a pas publié par lui-même, même si elle a publié le premier tome des lettres à Sartre, mais pas les siennes, alors qu'elle les avait. Pas les siennes, celles de Sartre, qui étaient plus épicées, disons, et plus délicates. Elle les a laissées publier. Et en se disant, la postérité, ou en tout cas, elles seront publiées par celle qu'elle s'était choisie comme sa fille, Sylvie Le Bon de Beauvoir, elles seront publiées par elle et dans des conditions qu'elle choisira, sans donner vraiment d'indication. Mmh. Or, ces lettres, nous ne pouvons pas les lire de la même manière que nous lirions les textes de Beauvoir publiés par elle directement, ses mémoires, Force de l'âge ou Force des choses, tout simplement parce que nous avons accès à des textes qui ont été écrits dans un contexte parfaitement privé, même si elles circulaient par ailleurs à l'intérieur de la petite famille, et dans lesquels on est conduit à dire, imaginez que nous publions demain vos emails ou vos enregistrements, il est évident que le ton qu'on adopte, que les choses qu'on peut dire dans ce cadre-là n'ont rien à voir avec ce que l'on dirait de sa vie. Et il ne semble pas que ce soit un mensonge. Nous devons, lorsque nous mettons sur le même plan des textes qui sont écrits dans un contexte et dans des buts qui sont si radicalement différents, faire attention à ne pas mélanger les deux.
Bien sûr, mais à partir du moment où une partie de son œuvre, c'est sa vie et la manière dont on présente sa vie, obligatoirement, on est obligé de présenter sa vie de manière édifiante, puisque elle a expliqué quand même qu'elle voulait avoir un effet sur les lecteurs et les lectrices.
Oui, mais Beauvoir, attention, effectivement, il y a un souci d'exemplarité de ce point de vue, un souci d'exemplarité mémoriale. Mais vous rappelez que dans l'extrait de la conversation qu'elle devait avoir avec Lanzmann ou avec Sartre, Beauvoir
on
disait...
On ne sait pas si c'était Lanzmann ou Sartre.
Tout à fait, mais ils étaient là tous les deux présents. De toute façon, c'est un dialogue avec eux deux. Beauvoir insistait sur le fait, et elle le fait systématiquement, que ses premiers textes étaient ratés. Ce que ne dit jamais Sartre dans les mots, en tout cas, lorsqu'il évoque ses premières tentatives. Il a beaucoup d'ironie, mais il ne les voit pas comme ratés. Il en fait une analyse subtile et très drôle. Or, ce qui est intéressant, c'est que cette Beauvoir est toujours dans une forme d'autocritique continuellement. À chaque fois qu'elle parle de l'un de ses textes, même les mandarins, elle en fait une critique quasi systématique. Beauvoir est dans cette espèce de distance à l'égard d'elle-même. Elle voit, disons que l'exemplarité vérité, elle passe avant tout par une forme de mise à distance de son passé et d'autocritique qu'elle s'applique. Pas toujours sur le plan politique, il est vrai.
Alors justement, sur le plan politique, on peut peut-être en dire un mot tellement c'est important pour ses récits autobiographiques, puisqu'elle a expliqué qu'au fond, elle ne parlait que d'elle pour pouvoir parler d'autres sujets. Donc on a dit que parler d'elle en tant que femme, c'est parler de toutes les femmes, mais parler de sa vie, c'est parler de l'histoire, c'est parler des soubresauts qu'elle a eu à subir. Et alors, il y a un certain nombre de jalons. Il y a d'abord la guerre d'Espagne, il y a ensuite évidemment la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration et leur découverte, et puis après il y aura la guerre d'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quel point on ne peut pas comprendre ces mémoires si on n'a pas à l'esprit cette idée que l'histoire les imprègne?
Oui, c'est quelque chose qui au départ lui est venu de Sartre véritablement. Elle le présente comme tel, en tout cas dans la force des choses et plus tard dans la force de l'âge, pardon, et plus tard dans la force des choses. C'est-à-dire que Sartre, revenant des camps, a conscience que jusqu'ici ils ont vécu comme des petits bourgeois enfermés sur leur propre existence, dans une forme d'esthétisme, etc., sans prendre en compte l'importance que leur présence dans le monde et leur engagement dans l'histoire pouvait avoir.
Donc ça vient plutôt de lui.
Donc c'est lui qui au départ en fait véritablement une question, et c'est lui qui va chercher à s'engager, effectivement, à résister. Beauvoir va le suivre, mais de façon avec un petit peu plus de résistance, ou en tout cas sans voir la place qu'elle pourrait prendre à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans le récit qu'elle fait rétrospectivement, dans La force de l'âge, elle fait de 39 une espèce de tournant, une espèce de révélation, la révélation de la place de l'histoire dans son existence. Elle se voit comme une personne située dans l'histoire. En réalité, dans sa vie même, et de ce point de vue, elle va suivre Sartre sur ce plan. Et après, notamment la libération, être d'accord sur chacune des positions qu'il prendra, et notamment la théorie de l'engagement qu'il suivra. Dans l'esprit de Beauvoir, elle ne voulait pas le doubler. Il lui semblait que Sartre prenait des positions, notamment politiques, qu'elle ne voulait, et notamment dans son rapport avec les communistes, qu'elle ne voulait pas redoubler en quelque sorte. Donc elle lui laissait cette part, et Sartre et Beauvoir ont eu tous les deux toujours souci de ne pas se marcher sur les pieds, de se laisser une sorte de se diviser d'une certaine manière le travail, sans se marcher sur les pieds. Ce qui est important, c'est que Beauvoir a petit à petit trouvé son propre engagement dans l'histoire, qui est venu plus progressivement. Le plus important, ça a été effectivement, même si ça a commencé à la libération, puisque ça a été évidemment la guerre froide, et de ce point de vue, les mandarins sont représentatifs de l'importance que la guerre froide et la découverte des camps a pu avoir dans son existence, et l'effet, que le traumatisme que ça a pu représenter pour elle, mais c'est surtout, évidemment, en 56, à partir de 56, la guerre d'Algérie, qui là est un véritable traumatisme très personnel pour Beauvoir.
Mais ça, c'est l'histoire donc du couple Sartre et Beauvoir, mais en quoi est-ce que ça vient précisément s'instiller dans les récits autobiographiques? Parce que finalement, on n'a pas besoin de parler à la première personne pour raconter la Seconde Guerre mondiale et pour s'insurger contre la guerre d'Algérie.
Oui, alors c'est dans le cas de Beauvoir, si, et c'est ça qui est intéressant. Je ne parlerai pas d'écrits autobiographiques précisément pour ça, je parlerai d'écrits mémoriaux, parce qu'il me semble qu'à partir de La force de l'âge, Beauvoir bascule véritablement du côté des mémoires. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est le fait que sa vie puisse servir de cadre d'appréhension à l'histoire. C'est cette espèce de pari que fait tout mémorialiste, l'idée que son parcours de vie, ses choix...
Elle a besoin d'incarner l'histoire.
Voilà, l'histoire le mémorialiste, c'est celui qui incarne l'histoire. C'est-à-dire, c'est celui... Alors, pas toujours sur un mode très personnel et très intime. Pensez à De Gaulle. De Gaulle incarne bien une histoire, c'est-à-dire que son destin se confond, ses choix, à un certain moment, l'appel du 10 juin, etc., se confondent avec une histoire, à ses yeux en tout cas, pas aux yeux des communistes, je vous l'accorde, mais aux yeux de beaucoup de Français en tout cas. Dans le cas de Beauvoir, c'est au contraire sur un mode intimiste. Donc il y a bien une fusion entre autobiographie et mémoire, mais ça se fait sur ce mode intimiste.
Allez, on va continuer de parler avec vous de Simone de Beauvoir, Jean-Louis Janel, juste après, en compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie des revues avec aujourd'hui Philippe Roger de la revue Critique. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu.
Vous nous annoncez beaucoup de variétés dans le numéro en cours de critique, et puis quelques surprises aussi.
Ah ben ça tient peut-être, c'est le proverbe, vous savez, en mai fais ce qu'il te plaît, donc nos varias sont particulièrement variées, c'est vrai, avec tout de même, vous l'aurez remarqué, un fort tropisme littéraire, qu'il s'agisse des deux derniers livres de Pascal Quignard, dont nous rendons compte, ou d'Yves Bonnefoy, de son rapport à la langue occitane, la littérature est à l'honneur.
Mais alors la critique littéraire universitaire l'est beaucoup moins à l'honneur, avec le cas Jauss, dont vous nous parlez.
Oui, alors nous revenons sur une affaire qui a beaucoup agité, mais qui continue de secouer le monde universitaire intellectuel allemand. Hans Robert Jauss.
Voilà, vous le prononcez comme il faut le prononcer.
Je crois, j'espère, a été un des grands romanistes, hein, comme on dit là-bas, de l'après-guerre, spécialiste notamment de littérature française, patron de ce qu'on appelle l'école de Constance, maître à penser de la théorie de la réception. Or, Jauss a dissimulé pendant des décennies un engagement nazi qui fut sans équivoque. Avant, pendant la guerre, il servait dans la SS. Il est mort en 1997, mais l'affaire ne s'est pas éteinte avec lui. On en a même tiré récemment une pièce de théâtre, comme dirait Günter Grass, toute une histoire. Hein. Et c'est cette histoire que retrace pour nous Frank Rutger Hausmann.
Alors dans un registre tout à fait différent, évidemment, mais qui nous intéresse particulièrement dans cette émission consacrée à Simone de Beauvoir, vous mettez en vedette de ce numéro le journaliste et écrivain Claude Lanzmann. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant?
Mais oui, heureuse coïncidence. Ce ne sont sans doute pas les raisons qui manquent. On peut commencer par les raisons d'actualité. Il y a un riche volume collectif dirigé par Juliette Simon, Claude Lanzmann, Un voyant dans le siècle, paru chez Gallimard, un essai d'Éric Marty aux éditions Manutius, intitulé Sur Shoah de Claude Lanzmann, nous en rendons compte. Et je dirais aussi que c'est son inactualité que nous avons voulu honorer. Lanzmann est le contemporain de Sartre et de Beauvoir, et je me tourne vers Jean-Louis Janel, dont j'ai la superbe édition à la main. Vous en êtes témoin, cher Mathieu.
Ah, vous êtes rué dessus, parce qu'elle vient de sortir.
Eh bien oui, bien sûr. Et il est aussi le nôtre, il est notre contemporain, et lui qui a hérité des temps modernes. Il ne cesse de poser cette question, comment le XXIe siècle peut-il hériter du XXe siècle, et comment ? Dans le bruit et la fureur, dans la lucidité, d'où je crois la présence et presque l'omniprésence de Lanzmann. J'aurais envie de citer les Orientales, puisque, après tout, Victor Hugo fut, avec Rimbaud, le poète préféré du jeune Lanzmann. Toujours lui, lui partout. Mais sur la couverture de Critique, vous trouverez une autre citation de Hugo, qui lui va, je crois, comme un gant, « une force qui va ». C'est Hernani, chez Hugo. Il a été un acteur. Hernani, c'est agent aveugle et sourd de mystères funèbres. Mais c'est pas ça qui convient à Claude Lanzmann. Bien sûr, c'est acteur qu'il faut dire et témoin clairvoyant des funèbres mystères du XXe siècle. Alors, on ne présente pas Claude Lanzmann, on le salue. Et ce salut, nous l'adressons en même temps à notre consoeur, légèrement aîné, c'est-à-dire les temps modernes. Numéro 1, octobre 45.
Les temps modernes, si tu nous écoutes.
Numéro 1 de Critique, juin 46. Patrice Madiglier, dans un entretien que nous publions dans ce numéro, trace un parallèle que je trouve tout à fait passionnant entre les deux revues et leurs deux fondateurs. Et comment imaginer, en effet, l'histoire intellectuelle française de l'après-guerre sans Sartre et sans Bataille, et sans Beauvoir, sans les temps modernes et sans Critique. Si près, si loin, mais naviguant bord à bord.
Merci beaucoup Philippe Roger, c'est donc le numéro 852 de la revue Critique avec tout ce que vous venez de dire et bien plus encore. À bientôt. Et c'est bien la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au deuxième jour de notre série consacrée à Simone de Beauvoir. Nous sommes avec Jean-Louis Janel qui vient d'éditer les mémoires de l'écrivaine dans la bibliothèque de la Pléiade. Des mémoires où Sartre est évidemment très présent, comme dans cet extrait de La force des choses, lu par Emmanuel Riva.
Je passais loin de Sartre des jours, des semaines. À Tours, le dimanche, nous étions trop timides pour monter en plein jour dans une chambre d'hôtel. D'ailleurs, je refusais que l'amour prît la figure d'une entreprise concertée. Je voulais qu'il fût libre, mais non délibéré. Je n'admettais ni qu'on cédât contre son gré à des désirs, ni qu'on organisât de sang-froid ses plaisirs. La joie amoureuse devait être aussi fatale et aussi imprévue que la houle des mers, que la floraison d'un péché. Je n'aurais pas su expliquer pourquoi, mais l'idée d'une distance entre les émotions de mon corps et mes décisions m'effrayait. Et précisément, ce divorce s'accomplit. Mon corps avait ses humeurs et j'étais incapable de les contenir. Leur violence submergeait toutes mes défenses. Je découvris que le regret, quand il atteint la chair, n'est pas seulement une nostalgie, mais une douleur. De la racine de mes cheveux à la plante de mes pieds, il tissait sur ma peau une tunique empoisonnée. Je détestais souffrir. Je détestais ma complicité avec cette souffrance qui naissait de mon sang et j'allais jusqu'à détester le bruissement de mon sang dans mes veines. Dans le métro, le matin, encore engourdi de nuit, je regardais les gens et je me demandais « Connaissent-ils cette torture ? Comment se fait-il qu'aucun livre ne m'en ait jamais décrit la cruauté ?»
Cet extrait, Jean-Louis Janel, que vous évoque-t-il ?
C'est dans la force de l'âge. Alors c'est assez beau parce que y a cette idée de liberté. Vous savez, on dit toujours que, enfin on a dit, en tout cas soupçonné Beauvoir d'avoir été victime d'une espèce de pacte ou en tout cas de contrat qui lui aurait été imposé, notamment une dissociation entre l'amour nécessaire pour Sartre et les amours contingentes qu'il se serait donné. Effectivement, Sartre a été plus rapide sur les amours contingentes, en tout cas que Beauvoir.
Oui, mais elle s'est rattrapée après.
Elle s'est rattrapée après, pas sur le nombre, mais je pense que cette attaque ou cette critique est assez malvenue parce que Beauvoir est très soucieuse de sa liberté. Quand Sartre lui propose le mariage au tout départ pour des raisons, on va dire administratives, Beauvoir le refuse immédiatement. Ça lui ferait horreur d'être mariée. Donc ce concubinage, il ne lui est pas imposé par Sartre. Elle le veut, elle le revendique, elle y voit une source de liberté, et elle dit à plusieurs moments, même si on peut trouver des citations qui vont dans l'autre sens, bien sûr, parce qu'elle hésite, elle est assez ambiguë, elle dit très clairement à plusieurs moments qu'elle ne veut absolument pas se lier, et même à l'égard de Sartre à certains endroits. Donc il y a cette liberté, quelque chose d'important. Il y a cette autre chose qui me semble essentielle, qui est une espèce de distance avec le corps qu'on trouve très souvent dans Les Mœurs de Jeanne Firanger, où elle évoque la même réticence à éprouver le désir dans son corps au départ. Rien ne lui a été dit de la sexualité et on imagine mal aujourd'hui à quel point elle pouvait être, elle le dit elle-même, une oie blanche. Mm-hmm. Ce n'est que très progressivement et en tout cas pas dans les années, effectivement dans ces années-là, au début des années 30, que le plaisir, la sensualité va être quelque chose qui va s'épanouir chez elle. C'est plutôt... on pourrait penser avec Bost, avec d'autres, et bien sûr avec Algren, ensuite aux États-Unis, que les choses vont prendre plus d'ampleur et où, on le voit dans les lettres, le plaisir sensuel va prendre plus d'importance.
Mais est-ce que vous diriez que ces mémoires sont aussi les mémoires d'un couple?
Oui, ils le sont et c'est voulu par Beauvoir. Alors là aussi, c'est une chose qui prend beaucoup d'importance d'un point de vue féministe, c'est-à-dire que Sartre ne dit finalement rien de Beauvoir dans ses textes, sauf dans les entretiens de la femme, et qui sont sollicités, qui sont organisés. De lui-même, il n'en dit pratiquement rien. Il arrête son autobiographie très tôt, 11-12 ans, c'est difficile à dater. Beauvoir va au contraire terminer les choses
sur la mort de Sartre.
C'est un double couple en fait. Elle termine à la fois, alors sur la mort de Sartre si on prend l'ensemble du cycle, mais elle termine Les Mœurs de Jeanne Firanger, son autobiographie, sur la rencontre de Sartre et la mort de Zaza à chaque fois. Et d'une certaine manière, les Mémoires de Jeanne Firanger sont construit sur cette espèce de double couple. Sartre vient prendre la place de Zaza, qui était l'amie, la vraie amie. Elle les lira d'ailleurs jusqu'à la fin et verra dans les deux seules vraies personnes qui auront compté dans sa vie, c'est Zaza, au départ, sa grande amie, Elisabeth Lacoing, et Sartre. Donc il y a bien, chez Beauvoir, en tout cas, on ne se construit que dans la relation. Ce qui n'est pas exactement, ce qui est le cas dans les faits de Sartre, mais jamais revendiqué comme tel. Et il y a là peut-être quelque chose qui différencie les récits de soi masculins des récits de soi féminins.
Alors, on a dit tout à l'heure que Sartre avait été une sorte de mentor en ce qui concerne les récits autobiographiques pour Beauvoir. Et pourtant, quand on regarde les dates, on se rend compte que les mots récits autobiographiques de Sartre est tout de même assez postérieur aux mémoires d'une jeune fille rangée. Je crois que c'est une dizaine d'années après, ou peut-être un petit peu moins. Alors, qu'est-ce que ça signifie?
Alors, c'est plus compliqué que ça en réalité. Il se trouve que donc la jeune fille mémoire morts de Jeanne Ferranger sont publiés en 58. Elle les écrit entre 56 et 58. Les mots de Sartre paraissent fin 63 en revue et en 64, janvier 64, pour le texte. Mais en réalité, Sartre a commencé une première version qui s'appelait Jean sans terre avant et au moment où Beauvoir était en train d'écrire ses morts de Jeanne Ferranger. Il a abandonné Jean sans terre, puis ensuite l'a repris en 61, 62, 63 pour le publier en 63. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées. Il se trouve qu'ils ont écrit une première version de leur texte, tous les deux en même temps à peu près. Et qu'il y a une interaction continuelle et qu'il est quasi impossible.
Entre eux, ils lisent les textes de l'autre.
Ils n'écrivent jamais rien sans s'entrelire et se critiquer l'un l'autre. Jamais. Donc de toute façon, ils se
donc
sont...
Donc on ressent l'influence de l'un sur l'autre. Ou est-ce que vous le voyez par exemple, vous, l'influence
ils écrivent pratiquement...
de Sartre ou des mots dans ces textes à elle.
Alors je peux en donner un petit exemple. Je ne vais pas prendre les morts de Jeanne Ferranger, mais j'en donne un petit exemple pour La force des choses, qui a posé beaucoup de problèmes pour Beauvoir. Donc Force des choses, on est juste à la Libération, le premier tome de La force des choses, on est en 44, de 44 à 52 pour la fin. Beauvoir raconte la Libération, c'est le grand moment, c'est le grand moment existentialiste, cette espèce de succès extraordinaire. Et elle a beaucoup de mal à écrire tout ce qui concerne la philosophie de Sartre. Elle commence par un récit, une première version, qui est assez factuel, historique, parce qu'il faut resituer ce qui a déjà été plus ou moins oublié, c'est-à-dire l'importance que les communistes ont pu avoir, la violence des rapports entre les communistes et Sartre, etc. Mais elle n'est pas satisfaite. Sartre lit, puisque ça se passe toujours comme ça, elle fait relire par Sartre, Bost et Lanzmann à l'époque. Donc tous les trois relisent, ils ne sont pas d'accord.
Tous les amants relisent,
ex dans le cas de Bost à l'époque, et Sartre notamment est assez critique. Et il donne à Beauvoir des notes qui aujourd'hui sont très connues pour nous qu'on ne connaissait pas, qui était inédite, et d'ailleurs elle le dit très clairement, il y a des renvois, notes inédites de Sartre, et elle le dit très explicitement, et il lui donne une série de notes qui sont des notes qu'il a relues lui-même à cette époque, enfin qu'il a écrites en relisant ses propres carnets de guerre. Que Sartre avait écrit donc pendant la guerre et qu'elle avait relu la drôle de guerre qu'elle avait lu elle-même. Ces notes vont l'aider à reconstituer la philosophie de Sartre. Donc il y a bien un espèce de va-et-vient. Et de la même manière, on trouve dans des textes de Sartre, alors il n'écrit pas directement cette période, mais il l'écrit par un biais détourné. Il va notamment faire un portrait au moment de leur mort de Nizan et de Merleau-Ponty, deux grands tombeaux à ses deux grands amis qui sont en réalité des sortes de mémoires indirectes transposées, puisqu'il va raconter leur destin croisé dans les deux cas, jeunesse et puis ensuite après-guerre dans le cas de Merleau-Ponty. Or, on trouve toute une série d'anecdotes qui lui viennent, dans le cas de Merleau-Ponty notamment, puisqu'elle le connaissait depuis bien plus longtemps que lui, qui lui viennent de Beauvoir. Donc ces jeux d'échange sont continuels entre les deux.
Alors Jean-Louis Janel, depuis tout à l'heure, on parle d'autobiographie, on parle aussi de mémoire, et c'est vrai que les mémoires d'une jeune fille rangée sont parues sans indication génétique particulière sous la couverture. Ensuite, La force de l'âge a été classée comme autobiographie, puis La force des choses, c'était officiellement des mémoires. Ensuite, Tout compte fait, c'est de nouveau une autobiographie. Et puis après, il y a La cérémonie des adieux, on ne sait plus très bien ce que c'est. Elle n'a pas réussi à choisir. Puis finalement, est-ce qu'il y a une... c'est quoi la différence d'ailleurs entre
la différence, elle nous importe à nous, enfin moi, ou en tout cas à moi, en tant que spécialiste de littérature, mais en réalité, ça n'a pas énormément d'importance. Et en tout cas, pour elle, les termes se mélangeaient plutôt. Pas toujours d'ailleurs. Quand on lui posait des questions précises sur ce point, elle faisait bien des distinctions. Mais en tout cas, pour ce qui est des mémoires de Jeanne Ferranger, c'est un terme, l'usage du terme mémoire est ironique, hein, il est antiphrastique dans ce cas-là.
Jeanne Ferranger aussi. D'ailleurs.
Voilà, et Jeanne Ferranger, bien sûr, voilà, tout à fait. Il s'agit bien d'un récit d'enfance, donc d'une autobiographie. Mais elle ne faisait pas tout à fait la distinction. Moi, il me semble que, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a un phénomène de convergence, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'élargissement au monde qui gouverne l'ensemble de ce récit, l'idée que la reconstitution de sa vie va permettre d'englober petit à petit, d'ouvrir à un empan le plus large possible et de rendre compte de ce qui a été vécu par une génération tout entière. Et c'est un vrai pari de ce point de vue. Alors, c'est pas simplement sa vie, effectivement, c'est le couple. Sartre a été assez réticent au départ, hein, à vrai dire, et dès les mémoires de Jeanne Ferranger, à ce que Beauvoir raconte son existence sur ce plan. Plus
les
réticent
parents,
Beauvoir.
Comment ont-ils réagi?
Alors, la mère de Sartre, je ne sais pas d'ailleurs si elle a lu véritablement ces textes-là, elle avait assez mal ou pas très très bien réagi forcément aux mots eux-mêmes, et la mère de Beauvoir encore plus mal aux mémoires de Jeanne Ferranger, évidemment, mais lui-même était un peu réticent à ce qu'on expose personnellement son existence. Puis ensuite, il a compris le projet de Sartre et de Beauvoir, pardon, et il a suivi sur ce plan. Elle est même allée très loin d'une certaine manière parce qu'elle raconte beaucoup de choses très privées. Sauf sur certains points qui, par exemple Vanda, qui a été l'une des femmes qui a beaucoup compté, la sœur d'Olga, l'une des deux Kozachevitz qui a beaucoup compté pour Sartre, avait refusé explicitement que Beauvoir parle d'elle. Il n'en est pas question. Beauvoir respecte de ce point de vue les interdits de la même manière que pour Bianca Bienenfeld, par exemple. Il y a une sorte de protection qui est donnée à ceux qui refuseraient de voir leur vie exposée. Mais pour les autres, elle englobe la vie de tous et cette espèce de milieu existentialiste va devenir représentatif de tout un moment de l'après-guerre, parce que leurs vies vont se lier petit à petit à celles des autres sur un plan politique, sur un plan personnel ou autre.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons toujours de Simone de Beauvoir, dont on n'a pas assez souligné Jean-Louis Janel, le grand humour. C'est vrai que c'est pas toujours évident au premier abord. D'ailleurs, les comptes rendus de La Force de l'âge, de La Force des choses, ou de Tout compte fait l'ont répété assez. Simone de Beauvoir n'est pas très drôle, mais vous, évidemment, vous n'êtes pas d'accord et vous allez nous expliquer pourquoi.
Effectivement, c'est un leitmotiv. On le retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'est un cliché qu'on nous sort continuellement, on l'a lu dernièrement d'ailleurs dans les pages du Monde aussi, on trouve Beauvoir assez peu drôle. Il faut être sensible à son humour qui est très particulier, qui n'est pas du tout celui de Sartre. Effectivement, c'est pas un humour de l'autodérision. Chez Sartre, est très proche de Flaubert d'un certain point de vue. Personne ne trouve grâce à ses yeux, tout le monde est victime de l'acidité de son humour. Beauvoir, c'est exactement l'inverse, c'est quelqu'un qui est dans une forme d'empathie, qui est dans un rapport critique, mais pas dans un rapport d'une ironie un peu mordante. En revanche, il y a une manière de se présenter elle-même et Sartre sous un jour un peu ridicule, notamment lorsqu'ils deviennent des espèces de préposés comme ça de la pensée française et font le tour du monde, sont invités absolument partout.
Jusque dans le désert,
dans des situations qui sont d'un cocasse extraordinaire, quand ils vont en Chine, quand ils vont au Brésil, dans des situations improbables. Et Beauvoir met toujours l'accent sur ce que leur situation a de ridicule, ou lorsque même ils vont se promener à titre privé en
peut-être
Grèce.
Plutôt sur la situation ridicule de Sartre d'ailleurs, oui, alors, quand il tombe par exemple dans une fosse d'orchestre en marchant sur une bâche, il ne sait pas qu'il y a un trou de 3 mètres en dessous, aime bien raconter ça quand même.
Voilà, la seule réaction du type qui a invité, c'est « Ah, la conférence est foutue !» Enfin, voilà, c'est sa réaction et c'est très drôle. On voit la tête ahurie de Sartre qui remonte du trou et c'est assez drôle. Effectivement, c'est souvent Sartre, mais ça s'inscrit dans une tradition philosophique qui est le philosophe qui tombe et qui ne regarde pas qui regarde au ciel et qui tombe dans le. Donc c'est une grande tradition philosophique qu'elle met continuellement en scène. Mais à l'égard d'elle-même aussi, il y a dans ce, alors je ne sais plus exactement où c'est, dans quel pays, en Égypte je crois, où tout d'un coup on a invité les gens à venir, ou en Chine peut-être, à les saluer, et on se trompe sur leur nom, c'est complètement ridicule, on ne sait pas, les gens qui viennent les saluer ne savent pas exactement qui ils viennent saluer exactement, et en Chine on les félicite pour des textes qu'ils n'ont pas écrits, où chacun est complètement... Dans une position parfaitement stupide. Donc, elle aime mettre l'accent sur ces choses-là. Elle a même une distance critique à l'égard de leur position politique et de leur ridicule, là aussi, à certains moments, qui est assez étonnante.
Donc, si vous voulez rire, achetez la dernière Pléiade sur les mémoires de Simone de Beauvoir. Et puis, si vous voulez aussi lire du beau style, ou peut-être pas. C'est quoi d'ailleurs le style de Simone de Beauvoir ?
Moi, je l'aime parce qu'il est sec, il est précis, il est tendu. Et j'aime cette espèce de précision du style de Beauvoir. Mais là encore, si on attend un style souple, chantourné, on ne sera pas forcément... Je ne voudrais pas survendre cette Pléiade. Mais en tout cas, j'aime la précision qui est celle de l'authenticité du style qui est celui de Beauvoir. Pour moi, c'est une valeur très grande.
Elle utilise beaucoup le point-virgule. Est-ce que ça a un sens particulier ?
Oui, parce qu'il y a une espèce de... c'est un style qui est très étonnant parce que ce qu'on appellerait un style coupé dans la tradition ancienne, et pourtant les phrases s'enchaînent d'une façon très très souple, donc on n'est pas dans le style coupé traditionnel. Ce sont des phrases courtes en général, mais qui s'enchaînent grâce au point virgule et qui en général forment une espèce d'ensemble qui est dominé par une visée logique. La phrase beauvoirienne est une phrase logique, une phrase qui fait sens et qui a un sens très net, très maîtrisé.
C'est le sens quand même qui prévaut.
Alors on aime ou on n'aime pas, effectivement, ça va à l'encontre des attentes qui sont celles, des attentes stylistiques où le style devrait surprendre, déconstruire, se démarquer d'un style convenu ou d'un style commun. Chez Beauvoir, pas du tout. Il y a une espèce de maîtrise et une volonté d'adéquation entre la forme et le sens qui en fait un style qui n'est pas néoclassique, mais un style qui est d'une très grande clarté, d'une très grande maîtrise. Pour moi, c'est un gage de précision et quelque chose que j'aime chez elle, mais il est vrai qu'elle ne va pas dans le sens des attentes qui seraient celles de la modernité de ce point de vue.
Et puis, il n'y a pas de gueuloir non plus.
Il n'y a pas de gueuloir.
Chez Simone de Beauvoir.
Sauf à certains moments, vous l'avez peut-être entendu dans l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, il y a des moments très écrits, des moments qui sont ceux en général soit d'une très grande d'un très grand bonheur, l'évocation d'une espèce de lyrisme et de l'évocation d'un moment de bonheur, ou au contraire l'évocation d'une sorte de conscience de la mort. Beauvoir est toujours tendu entre cette aspiration au bonheur et cette conscience extrême de la mort qui l'a conduit à des grands moments de désespoir, et ces moments-là sont très écrits. Au contraire, il y a un passage à une sorte de fort lyrisme de ce point de vue.
S'il ne fallait en lire qu'un de tous ces ouvrages autobiographiques,
il faut commencer absolument par Une mort très douce, qui est le texte sur la mort de sa mère et qui est le plus émouvant, le plus proche de ce que nous pouvons aimer aujourd'hui.
Eh bien, nous ferons cela. Jean-Louis Janel, merci pour ce parcours de l'œuvre autobiographique de Simone de Beauvoir sur laquelle vous avez longuement travaillé, puisque, on l'a dit, vous avez coordonné la publication de ses mémoires parues la semaine dernière dans la bibliothèque de la Pléiade. Demain, nous continuons à parler de Simone de Beauvoir en parlant cette fois-ci de son œuvre fictionnelle. Ce sera en compagnie de Delphine Nicolas-Pierre. Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie, ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînées. Après l'oraison funèbre émouvante, vibrante, adressée par Jean Rista à Monsieur Martinotti, le pays des ombres dit le souvenir d'un hier ténébreux, le nôtre. Je suis né au pli du crime venant de nul. Pars pour aller, on ne sait où, en ce temps-là, le feu, sanglant, ouvrait les lèvres pâles de la nuit. On entassait les cadavres dans les fossés, et l'homme en l'homme se mourait d'avoir perdu. Son nom, ma bouche est sans parole au sortir de l'enfer. Aux deux, à quels autels de la mémoire, ô Dieu de mon enfance, célébrer les morts? Trois, aux quatre, aux cinq, je marche sur mon ombre comme on enlace un nuage, la fumée d'une gitane. Six, je marche sur mon ombre, un volcan endormi, et la trace de mes pas lentement s'efface dans la cendre du souvenir, souffle en vain le vent sur les ailes flétries d'une rose. D'automne, l'oiseau dont le cœur ne bat plus, ô qui entend le silence lorsqu'on appelle les dieux au mi-temps de la nuit, celui-là passe sur le trottoir, le pied léger, vole au plaisir, dans les cavernes où se cachent les cyclopes, un air d'opéra. Alors là, recours aux 100 mots de la poésie de Jean-Michel Maulpois. Qu'est-ce que c'est que l'enjambement? Selon certains théoriciens, la possibilité de l'enjambement constitue le seul critère qui permette de distinguer la poésie de la prose. Citation de Giorgio Agamben. Une limite métrique s'oppose à une limite sémantique distincte des limites graphiques du vers. C'est là un trait propre à la forme du poème. Risquons à ce propos un jeu de mots. Quand la poésie est bien enjambe, elle enjambe. C'est une écriture qui se met en mouvement, s'élance, dessine comme un danseur des figures libres ou imposées. Et fait jouer ensemble le maître et la syntaxe. L'ombre m'a vêtu de sa guenille sur le pavé, je me souviens de l'odeur des acacias. Jean Rista. Plus loin, vers la fin du poème, « Oh, je suis assis parmi les ruines de la maison commune avec les exilés, longtemps. » J'ai cherché au ciel des étoiles, mais la terre, qu'avons-nous fait de la terre? J'ai perdu mon ombre. Il pleut dans les plis de la mémoire. Oh, l'appel tranquille du soleil levant. Vivre. Enfin vivre. Et tout à la fin, j'habite entre deux songes dans l'île Saint-Louis. Je porte la nuit comme une cape sur mes épaules. Ô vous qui dormez dans les étoiles enchaînées de Jean Rista et publié chez Gallimard.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de Jean Rista et Jean-Michel Maulpois.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et l'Institut du Monde Arabe présentent la 4e édition des Rendez-vous de l'Histoire du Monde Arabe. 3 jours autour de la thématique Arabe, Français, quelle histoire ? Avec plus de 50 rencontres et près de 150 spécialistes du monde arabe et de son histoire. Emmanuel Laurentin, Marie Richeux et Mathieu Conquet proposent 3 soirées de débats et de rencontres. Les Rendez-vous de l'Histoire du Monde Arabe, une coproduction France Culture, Institut du Monde Arabe, du 25 au 27 mai à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Cette semaine, Culture Monde prend le pouls d'un certain nombre de démocraties du monde. Alors que nous approchons ou sortons juste d'échéances électorales de première importance, l'Amérique latine va-t-elle poursuivre son virage à droite ? Les vieilles démocraties parlementaires européennes deviennent-elles ingouvernables ? Qu'attendre des processus électoraux dans un Moyen-Orient en plein chaos ? Autant de questions que nous évoquerons cette semaine dans notre série consacrée à quelques élections sous haute tension.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.